BPM, le journal d'information locale.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal quotidien sur BPM. Dans l'actualité de ce lundi 10 mai, nous irons tout d'abord à Gisors avec ce fait divers. 5 personnes ont été condamnées pour trafic de stupéfiants. Puis nous partirons à la Chapelle Longueville. 30 000 mètres carrés d'arbres centenaires ont été abattus. Ensuite, nous serons à Vernon où le club des commerçants s'affiche au cinéma. Et enfin, nous terminerons ce journal encore à Vernon. La semaine dernière, Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, Sébastien Missoff, directeur général de Google France, et Nicolas Hazard, fondateur d'Inco, étaient réunis pour le lancement du programme Inco Académie Territoire à Vernon. Pour l'occasion, ils ont accepté de répondre à nos questions. Et nous commençons donc ce journal avec ce fait divers à Gisors. 5 personnes ont été condamnées pour trafic de stupéfiants. 6 prévenus étaient jugés par le tribunal correctionnel d'Évreux ce mercredi 5 mai dans une affaire de trafic de stupéfiants dans les environs de Gisors. Ces 6 personnes avaient été interpellées à la suite d'une vaste opération de gendarmerie menée mardi 13 avril au quartier des Bornes. Ce jour-là, à 6h, 60 gendarmes de la compagnie des Andelys, accompagnés de chiens entraînés à repérer les stupéfiants, ont fait aboutir une enquête menée depuis plus de 6 mois par la COB de Gisors et la brigade des Andelys. En plus des 6 personnes soupçonnées de faire partie de ce réseau, 25 personnes ont été entendues par les enquêteurs librement. Le tribunal correctionnel d'Évreux a reconnu coupables 5 des 6 prévenus ce mercredi 5 mai. Les 3 principaux prévenus ont été condamnés respectivement à 4 ans, 2 ans et 20 mois de prison ferme. 2 autres membres du réseau ont été condamnés à 1 an de prison avec sursis. Le dernier prévenu a été relaxé. Partons à la Chapelle Longueville. 30 000 mètres carrés d'arbres centenaires ont été abattus. C'est un spectacle impressionnant qu'ont pu constater randonneurs et promeneurs sur le chemin forestier de la Chapelle Longueville, à proximité du ruisseau Saint-Ouen. En effet, plus de 3 hectares de chênes centenaires ont été abattus. La raison de cette coupe est liée aux éventuels risques d'accident avec la chute d'arbres en mauvais état. Pour ne pas que l'endroit devienne une zone de désolation, des discussions vont avoir lieu entre la municipalité, le propriétaire et le gérant forestier, de manière à trouver la meilleure des solutions pour le reboisement. Dernier point des discussions, la volonté de la municipalité de trouver un accord avec le propriétaire pour y avoir un droit de passage, notamment pour les écoles. Nous sommes maintenant à Vernon où le club des commerçants s'affiche au cinéma, salon de coiffure, boutique, boulanger ou encore bar et restaurant. C'est sur la façade du cinéma-théâtre que le club des commerçants de Vernon affiche ses activités. Des activités encore pour certaines en sommeil en raison du confinement, mais qui devraient reprendre le 19 mai, comme annoncé par le président de la République. À l'heure où les salles obscures sont encore fermées, ces affiches viennent habiller des panneaux bien vides depuis ces derniers mois où aucun film n'a pu être l'affiche. Avec un petit budget, seulement 400 euros d'impression, le CDC a installé vendredi dernier 4 affiches soigneusement maquettées et représentant plusieurs corps de métier par le biais de photos d'illustration et sous le titre « Ma ville, c'est ma vie ». Pour mettre l'accent sur cette réouverture tant attendue, le club des commerçants prépare une animation qui commencera à la fête des mères fin mai pour se poursuivre début juin. De quoi retrouver leurs clients dans les meilleures conditions. Et nous terminons donc ce journal à Vernon. La semaine dernière, Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, Sébastien Missoff, directeur général de Google France, et Nicolas Hazard, fondateur d'Inco, étaient réunis pour le lancement du programme Inco Académie Territoire à Vernon. Pour l'occasion, ils ont accepté de répondre à nos questions. Suite à un tour des 25 étudiants ayant participé au programme, Sébastien Lecornu a réagi.
Ce qui est très frappant, pour parler sans langue de bois, c'est qu'il y avait une attente qui était très forte. À chaque fois, il y a quand même une expression sur des formations qui existent au préalable, mais qui malheureusement ne sont pas toujours pile-poil conformes aux attentes du marché du travail ou, peut-être encore plus grave, à leurs aspirations personnelles. Alors, c'est pas dénigrer les formations généralistes telles qu'elles existent, parce qu'elles constituent le socle des savoirs et ça permet d'aller derrière, mais on voit bien que ça ne suffit plus. Et plus on a des jobs désormais qui font appel à des qualifications très particulières, très fines, voire même de niche, plus d'ailleurs ces qualifications sont successives dans le parcours d'une carrière, plus il faudra avoir une offre de formation clé en main, rapide, facile, puis pardon, enfin faut le dire, gratuite, parce que c'est quand même aussi le sens du partenariat que nous avons, c'est qu'il y a quand même une dimension éminemment sociale dans cette affaire-là. Et là, pour le coup, on retrouve aussi une notion d'égalité des chances. Et c'est que lorsqu'on interroge les jeunes ultramarins, alors évidemment avec un petit clin d'œil pour la Réunion, parce que c'est là évidemment où vous vous êtes posé en premier service, si j'ose dire, pour développer le projet, on entend un peu la même chose. Alors évidemment, avec un problème de continuité territoriale, et d'une relation à l'hexagone qui est un peu différente, parce que certaines formations existent évidemment à La Réunion. Quand elles n'existent pas à La Réunion, en général, il y a peu de pays de la zone qui peuvent la proposer, c'est-à-dire la différence avec la Caraïbe ou le Pacifique, dans lequel on peut aussi se retrouver ou se retourner vers les États-Unis ou vers l'Amérique du Sud pour l'océan Atlantique. C'est pas vrai pour l'océan Indien. Donc très vite, on se dit, bah, si c'est pas possible sur place, il faut évidemment se reprojeter physiquement, comme on le faisait il y a plusieurs décennies, pour retourner ou aller dans l'Hexagone. Bon, et là, on se retrouve exactement dans la même dynamique. On se dit, bah, si au fond, je n'avais pas eu cette offre-là, soit je serais allé à Rouen ou à Paris, mais ça, c'est déjà la version socialement faisable. Je trouve ça hyper touchant parce que moi, j'ai grandi ici, j'ai fait mon lycée ici. À un moment donné, j'ai tout fait pour aller faire mes études de droit à Paris. Et au fond, je me reconnais un peu dans tout ça.
Sébastien Missoff réagit également sur les discours des étudiants.
La partie qui m'a probablement le plus touché, et c'est quand même l'aventure universelle de la vie, c'est d'apprendre à se connaître soi-même et peu à peu de découvrir au fur et à mesure combien on s'épanouit sur tel ou tel métier. Et j'ai trouvé que les échos de ce qu'on a entendu aujourd'hui parlent vraiment de ça. Ça parle d'être exposé à différents métiers, numériques, et tous ces mots peuvent être des mots tiroirs derrière lesquels on a du mal à mettre une réalité, et de découvrir qu'à travers ces quelques semaines, à travers ces formations, à travers ces échanges, certaines des personnes ici évoquaient vraiment apprendre à se connaître eux-mêmes et à partir de là, identifier le rôle qui peut leur correspondre le plus. Et je pense que c'est le cœur de la réussite de ce qui est fait ici. Vous parlez d'écoute et évidemment, cette écoute est au cœur de cet engagement-là.
Autour de Nicolas Hazard de réagir.
C'est des parcours qui sont super intéressants, très touchants aussi. Là, on parle de 22 personnes qui sont diplômées, mais l'objectif, c'est d'avoir plus de 20 000 personnes. Hein. Donc, c'est un grand travail qui nous attend. Et toute l'équipe d'INCO Académie Territoire, c'est d'aller partout comme ça. On a fait un pilote à La Réunion, on a commencé ici. Et ici, ça va continuer aussi. Hein. On va faire d'autres choses. On va développer toujours ces formations pour d'autres personnes. Et donc, c'est que le début d'une belle et longue aventure, on l'espère. Et avec aussi, bien évidemment, et Monsieur le ministre le rappelait, les collectivités locales avec lesquelles on travaille main dans la main, notamment la région, avec lesquelles il y a beaucoup de choses à faire. Et donc, c'est ce chemin qu'on va emprunter. Et puis, nous, on va prendre notre baluchon et continuer, hein, Alexandre. On va partir un peu sur toutes les régions. On sera bientôt dans le Comminges, que Monsieur le ministre connaît bien, en Occitanie aussi, pour faire la même chose, déployer la même chose, parce que effectivement, il y a une sorte d'universalité dans ces besoins-là et dans cette nécessité, en tous les cas, de fournir une boîte à outils qui soit une boîte à outils moderne et adaptée au marché du travail qui évolue extrêmement rapidement. Et nous, on essaie d'être là, en tous les cas, auprès de ceux qui ont envie de grandir, qui ont envie de se construire un avenir, et avant tout dans les territoires ruraux, et dans les villes petites et moyennes. Et c'est le début de cette belle aventure qu'on va faire ensemble.
Et pour conclure, Sébastien Lecornu revient sur les nombreux partenaires locaux de ce projet.
Ils sont très nombreux pour le meilleur, mais enfin, parfois aussi pour le pire. Il faut quand même qu'on se dise les choses. C'est qu'on a un éclatement des acteurs sur ce secteur-là, qui correspond inévitablement à une réponse de sur-mesure, parce qu'il y a un éclatement des situations personnelles. Vous l'avez rappelé, j'étais présent du conseil départemental de l'Eure. On a créé, avec l'ensemble des conseils départementaux, une plateforme qui s'appelle Job 27, parce que typiquement, on avait pas mal de bénéficiaires du RSA qui passaient dans les moulinettes classiques des chantiers d'insertion, des accompagnements. Puis à un moment donné, on s'apercevait quand même que le vrai lien, on n'était pas complètement dans l'accompagnement social, en tout cas, on était plus complètement dans l'accompagnement social, on n'était pas encore complètement dans le champ de compétences de Pôle emploi. On avait cette espèce de zone grise dans laquelle fallait faire un peu la jonction. En fait, nous-mêmes, on a participé au fait de rajouter des acteurs. Donc, ce n'est pas une critique, mais la réalité, c'est qu'au bout d'un moment, on a besoin de faire un peu système. On a besoin un tout petit peu de repartir de la personne qui a besoin de sa formation. C'est bien notre problème, bien souvent, c'est qu'on a un éclatement des acteurs, et puis on explique aux jeunes que c'est à lui de se démerder pour aller trouver le bon acteur, et après tout, il n'a qu'à comprendre comment ça fonctionne. Ah non, c'est un peu raisonnable. C'est à nous de mettre d'accord, puissance publique, puissance privée légitime sur ces sujets, d'arriver à avoir un truc le plus simple possible qui fait que globalement, quand il y a une aspiration, une envie, aussi une opportunité, hein, j'ai un rendez-vous chez un chef d'entreprise, potentiellement avoir tel job dans 6 mois, et si j'ai pas ma formation, je vais pas réussir à topper le job en question. Bon, c'est à nous d'avoir une solution sur mesure. Et pour ça, ça passe par le décloisonnement. On a des acteurs qui ne se parlent pas assez. Le conseil régional a fait beaucoup de choses dans la matière, le comité d'agglomération aussi localement. Enfin, ça peut pas que de l'affaire de la puissance publique. Alors, c'est gentil, de la part de Nicolas, de rappeler que sur les collectivités, on peut rien faire. Mais en même temps, nous, les collectivités locales ou l'État que je représente en tant que ministre, on peut rien faire sans des partenaires privés. Donc tout ça, c'est au fond une aventure collective, c'est une évidence.
C'est la fin de ce journal. Passez une excellente journée à nous écouter sur BPM.